Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Ça fait plus d'un mois que j'avais interrompu mon émission « Qui suis-je ?» et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bien entendu, encore bonne année, puisque nous sommes encore en janvier. Cette émission se déroule au Café Brandt et j'ai avec un grand plaisir le soutien de Sacha qui s'occupe de la technique à partir d'aujourd'hui. Bonjour Sacha. Alors, l'émission « Qui suis-je ?» a pour but de, vous le savez, de parler de l'actualité, de sujets de société avec un regard un peu décalé et souvent impertinent. J'essaye d'avoir une approche personnelle, celle d'un autodidacte qui nourrit sa réflexion principalement du terrain. Et j'aime bien exprimer des colères et souvent des propositions. À chaque fois, je reçois une ou un invité pour illustrer le thème du jour et évidemment développer et nourrir le débat. J'ai déjà traité différents sujets très politiques, le vote obligatoire avec Pierre Jakubowicz, l'engagement des jeunes avec Alexis Toblegern, la liberté de la presse avec Sylvia Oussadon-Chamzedeh, qui a le journal Le Torchi. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ce journal, il est vraiment absolument rafraîchissant. La transmission des valeurs à l'école avec Rachel Marx, principale du collège Vauban. Et aujourd'hui, le sujet s'est imposé la semaine dernière de manière pratiquement naturelle, avec une actualité strasbourgeoise qui a mis en lumière l'Europe et la condition féminine. Au-delà de ces deux thèmes si importants, le thème de cette petite émission est la passion et l'engagement en politique. Alors qu'il est de bon ton de critiquer les politiques, et maintenant malheureusement souvent de les agresser, je veux une fois de plus saluer celles et ceux qui s'engagent pour nous, pour notre avenir et pour nos valeurs. Alors que l'abstention est si forte, il faut saluer ces démocrates qui refusent de laisser les extrêmes prendre le pouvoir. Souvent mal payés, bien moins qu'en Allemagne, ils sont des remparts contre les extrémistes. Alors que nous sommes dans un monde aussi complexe, où tous les sujets sont imbriqués les uns aux autres, dans une ville où, à Strasbourg, on concentre tous les échelons politiques, locaux, nationaux et européens, il m'a paru comme une évidence d'inviter une femme politique engagée sur tous les tableaux. Alors qu'il est de bon ton d'exiger des politiques de ne pas cumuler leurs fonctions, idée que je trouve totalement démagogique, je reçois un personnage qui donne du sens à ce cumul des engagements. Pas des mandats, mais des engagements. Elle est connue pour son énergie, pour ses convictions multiples et souvent ses prises de position tranchantes. Elle a aussi une vraie sincérité dans sa voix qui donne envie de la suivre. À la fois conseillère municipale, à la fois assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, à la fois responsable d'une association européenne, le Mouvement européen, mon invité est sur tous les fronts, locaux, nationaux et européens. Et c'est important de le redire parce que je crois que c'est assez rare. Elle est enfin un personnage qui va compter dans les prochaines années à Strasbourg. C'est avec joie que je reçois Rebecca Breitmann.
Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation.
De rien. Il y a deux traditions dans mon émission. La première, c'est que je tutoie toujours mes invités. Hein, que ce soit le grand rabbin, que ce soit un jour peut-être le pape ou demain Emmanuel Macron. Je tutoie toujours mes invités, non pas par manque de respect évidemment, mais pour des raisons tout simplement fraternelles. Et la deuxième tradition, c'est que mon invité démarre en prononçant le titre de l'émission, « Qui suis-je ?» et se présente. Rebecca, c'est à toi.
Très bien. Eh bien, qui suis-je ? Je suis Rebecca Breitmann. Et puis, je suis ravie d'être là. Je te remercie. Du coup, je me permets de te tutoyer également pour cette invitation et cette émission et de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont et locaux, et nationaux, et européens.
Alors, tu as quel âge ?
J'ai 31 ans.
31 ans. Tu es à Strasbourg depuis combien de temps ? Tu es née à Strasbourg ?
Alors non, je ne suis pas née à Strasbourg. Et je suis née près de Paris. Et je suis à Strasbourg depuis maintenant plus de 8 ans.
D'accord. Tu as fait quelles études, en fait?
J'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne pendant 5 ans, et avec un Erasmus à Heidelberg. Et puis j'ai fini mes études d'histoire que je trouvais passionnantes, mais je ne voulais pas devenir professeur d'histoire et donc je ne savais pas très bien quoi faire. Et après avoir fait plusieurs stages, j'ai refait un deuxième Master 2 à Sciences Po Strasbourg. C'est comme D'accord. ça que je suis arrivée. Et à l'issue duquel j'ai fait un service civique au Centre d'information sur les institutions européennes au lieu d'Europe.
D'accord.
Et puis ensuite, suite à une candidature spontanée, j'ai commencé à travailler à la région Grand Est comme collaboratrice d'élus.
D'accord.
Pour le groupe Modem à l'époque.
D'accord. Donc, est-ce que ta famille est engagée en politique ou c'est quelque chose qui vient de, tout simplement de ton parcours personnel ?
Alors, ma famille n'est pas vraiment engagée en politique. Ce sont des citoyens qui s'intéressent à l'actualité politique.
Bien sûr.
Mais qui ne sont pas encartés, qui n'ont jamais voulu l'être et qui ne sont pas eux-mêmes élus ou qui n'ont jamais voulu l'être. Moi, c'est vraiment... par mon engagement d'une part associatif et par les rencontres que j'ai faites aussi dans le cadre de mon petit parcours professionnel que du coup je me suis engagée politiquement.
D'accord. Quel est ton mentor en politique au niveau national, je dirais y a-t-il une femme ou un homme politique qui a animé vraiment, je dirais, ton parcours personnel ?
Y en a plusieurs. La réalité, c'est que celui avec lequel j'ai vraiment décidé de m'engager en politique, c'est Sylvain Weserman,
oui.
pour qui je travaillais à la région Grand Est et que j'ai suivi ensuite dans sa décision de se présenter aux législatives de 2017,
oui.
donc, et pour qui je travaille encore aujourd'hui. Puis après, plus largement, dans les idées politiques, j'ai beaucoup d'admiration pour le parcours de Simone Veil et pour les engagements qu'elle a pris au niveau européen et pour le droit des femmes. Et puis après, voilà, plusieurs... autres certainement un peu, enfin là, qui peuvent nourrir un peu une référence politique, mais vraiment c'est par ces contacts-là ou par ces lectures que j'ai décidé de m'engager.
D'accord. Quelles sont tes ambitions politiques ? Tu as un mandat qui est celui de conseillère municipale. Tu es baignée dans la politique locale de manière quand même très importante. Hein. Je pense que tu es une femme de réseau aussi, le terme réseau étant totalement positif. Quelles sont tes ambitions à court terme et à moyen terme ?
Alors, à court terme, c'est déjà de... Puisque, en fait, c'est le mandat d'élu municipal, comme à l'Eurométropole, c'est mon tout premier mandat. Je n'avais jamais été élu avant. Donc déjà, à court terme, c'est de bien prendre ma place dans ce mandat-là et avoir un rôle actif et un rôle pertinent, que ce soit pour la ville ou pour l'Eurométropole de Strasbourg. À moyen et à long terme, je ne sais pas. Je dois dire que je ne suis pas du genre à me projeter aussi loin. Déjà, m'habituer à ce rôle-là et le développer un maximum me paraît être déjà bien. Et puis ensuite, je verrai.
D'accord. Quel est pour toi le combat le plus important ? Tu es engagé sur plusieurs tableaux, mais quel est celui qui, d'après toi, surtout peut-être à Strasbourg, quel est celui qui te semble être... celui qui mérite le plus d'attention et le plus de se battre ?
Il y en a plusieurs. Je pense que le fil conducteur de ces différents engagements, que ce soit par exemple militer pour qu'il y ait une appartenance citoyenne à l'Europe, qu'on comprenne mieux le rôle de l'Europe dans la vie de chacun ou qu'on comprenne mieux l'importance de l'Europe dans la vie de chacun, que ce soit celui de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent en politique, plus de femmes qui prennent confiance dans les différents rôles qu'elles peuvent jouer dans la société, ou que ce soit celui de la place des jeunes aussi. Il y en a comme ça plusieurs, mais le fil rouge, c'est celui de faire en sorte que les gens participent et qu'ils se mêlent un peu de la chose publique,
oui, exact.
Et donc de l'engagement public et en tout cas de l'engagement citoyen, que ce soit dans le cadre du milieu associatif que dans le cadre politique, peu importe. Mais c'est un peu essayer de donner envie aux autres de rejoindre un peu l'arène publique, quoi.
D'accord. Sur cette question-là, il y a beaucoup à dire. À Strasbourg, on a une actualité locale qui est extrêmement, on peut dire, assez tendue, avec une radicalisation, je crois, un petit peu des débats entre une municipalité qui quand même est souvent assez incomprise. Est-ce que tu penses que les conditions à Strasbourg sont réunies pour permettre aux gens de s'exprimer dans les partis politiques, dans les associations ? Est-ce que tu ne crois pas que là, il y a une vraie crise à Strasbourg, hein, je parle, une vraie crise de la citoyenneté, quoi, et que le spectacle que nous voyons depuis maintenant un an et demi est sur ce plan-là assez, assez pitoyable.
Je pense que il y a une crise de la citoyenneté, mais un peu partout à Strasbourg, elle se caractérise différemment. Il y a en même temps une vraie mobilisation citoyenne, et on le voit dans les nombreux collectifs qui se sont créés, les collectifs de quartier, comme par exemple ceux de Neudorf qui luttent pour garder le terrain de basket dans leur quartier, oui. Pour tous ces collectifs qui se créent contre l'urbanisation de la ville. Il y a comme ça des initiatives citoyennes et des mobilisations citoyennes qui sont importantes à Strasbourg et qui jouent un rôle important. Je pense que la réalité, c'est que c'est effectivement le rôle de la municipalité, mais c'est en fait le rôle de tout le monde de permettre à ces collectifs, à ces initiatives d'exister, de s'exprimer et essayer de trouver avec eux les solutions qui conviendraient le mieux. Je ne sais pas si la municipalité a un rôle à jouer dans la création de ces collectifs, parce qu'en réalité, ils se créent un peu malgré elle et
non,
parfois contre
pas,
elle.
Oui. Oui.
Mais par contre, a un rôle dans le fait de trouver des solutions avec ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour leur quartier.
D'accord. La disparition des comités de quartier, par exemple, est un vrai problème pour la citoyenneté. Parce que les comités de quartier étaient quand même des relais qui permettaient aux associations, principalement aux citoyens, d'avoir un lien direct avec les élus, d'avoir une concrétisation de leurs projets et de bien sentir, de bien palper ce que peut être en fait le rôle d'un élu par rapport à des projets personnels. La disparition de ces conseils de quartier, pour toi, est-ce que ce n'est pas vraiment un vrai problème citoyen aujourd'hui ? Et que les associations sont un petit peu orphelines de ça ?
Oui, en fait, il y a deux points. Il y a le premier, c'est celui de ces citoyens qui veulent continuer à avoir un lien avec la municipalité et qui effectivement n'y arrivent pas, ou se sentent en tout cas pas entendus.
Oui.
Et là, c'est un vrai sujet sur lequel la municipalité doit travailler et doit progresser. Et de toute évidence, ils ont du mal à en prendre les contours et à se lancer. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui des moyens de communiquer avec les élus qui sont extrêmement rapides, extrêmement fluides. On le voit très rapidement sur les réseaux sociaux, par les mails. Enfin, on a comme ça des capacités, des canaux d'échange qui peuvent être beaucoup plus brefs et beaucoup plus instantanés dans un sens que
très moderne,
et très moderne, bien sûr, que les anciennes structures que pouvaient être les conseils de quartier. Cela dit, tout le monde n'est pas sur les réseaux, tout le monde n'a pas cet accès-là un peu aux technologies ou à cette volonté d'avoir un accès rapide avec un élu. Et donc, du coup, il faut préserver ces conseils, il faut peut-être les relancer autrement. Et ça a été certainement la tentative de la municipalité qui n'a pas été au bout du projet, de toute évidence. Mais j'entends qu'il faut, en tout cas, trouver un moyen de recréer ces bulles de discussion et ces bulles d'échange pour qu'il y ait une réelle co-construction dans les quartiers, ce qui manque depuis maintenant un peu plus d'un an.
Une question un peu plus personnelle, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. La maire de Strasbourg, Madame Barzéguian, on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'elle est entourée en fait par un groupe d'élus d'extrême gauche, très radicalisé, et qu'elle est un petit peu manipulée par ce groupe-là, et que en fait, elle n'a pas le choix d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément ses terrains à elle. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ou pas du tout ? Ou non, c'est elle qui mène le navire et qui assume cette radicalité ?
Non, alors, déjà, je pense qu'à partir du moment où on veut devenir maire de Strasbourg, on sait très bien où on met les pieds, et on sait quels sont nos objectifs, nos ambitions, et on sait où on veut aller. Ce sont quand même des rôles à responsabilité. Et Madame Barzéguian est...
Est-ce que tu
tout
penses qu'elle a pris
consciente.
Le costume elle a pris la dimension de sa fonction ?
Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle sait très bien où elle veut aller. Et madame, elle n'est pas à son premier mandat. Ça fait plus de 7 ans maintenant qu'elle est dans les majorités strasbourgeoises. Elle ne découvre pas, en réalité. Elle découvre peut-être le rôle de maire, mais elle ne découvre pas ce qu'est un exécutif local. Elle ne découvre pas ce qu'est être élue. Après que dans son équipe municipale, il y ait des personnes qui aient... Des ambitions politiques ou des visions politiques plus radicales ou qu'elle ou non, mais ça c'est normal puisque c'est une majorité plus ou moins plurielle dans laquelle chacun exprime ses opinions, que certains arrivent à influencer plus que d'autres, ça me semble assez logique et assez sain en réalité. Après tout dépend de l'idée politique qui est portée, mais bon, que chacun se soit influencé par les uns et les autres ne me choque pas. Par contre l'envie de faire passer Madame la maire pour quelqu'un qui serait influencé et fragile, ne sachant pas où elle va, est à mon avis une fausse idée.
Elle sait
très bien où elle va, elle a été décidée d'être maire de Strasbourg, elle est aujourd'hui maire de Strasbourg, et elle mène sa politique en tant que maire de Strasbourg.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. Donc, je t'ai demandé de choisir un morceau, donc tu as choisi...
Respect de Aretha Franklin.
Super. Magnifique morceau. Termine encore juste par une ou deux questions au niveau de la municipalité donc strasbourgeoise. Tu es élu donc conseillère municipale d'opposition. Que penses-tu de l'épisode Céline Geismann? D'après toi, a-t-elle payé en fait son discours qu'elle a tenu en février? Lorsqu'il y a eu l'histoire de la résolution sur l'antisémitisme de Lia Shera, où elle a tenu un discours que moi, personnellement, j'ai trouvé assez extraordinaire, vraiment très, très fort. Et penses-tu qu'elle a été virée à cause de ce discours, en fait ?
Je ne sais pas ce qui a fondamentalement poussé la maire à décider de l'éviction de Céline Geismann. Je trouve qu'en dehors même des raisons pour lesquelles elle a été renvoyée de l'exécutif, ça souligne en tout cas l'incapacité de la majorité écologiste à réellement co-construire ses politiques publiques avec des membres qui devaient être de la même majorité qu'eux sur des sujets avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Si à chaque fois quelqu'un sera en désaccord avec la maire, il risque de retrouver les bancs de l'opposition. Bon, nous, cela dit, ça nous fera plus de voisins sur nos bancs à nous, mais ça démontre quand même... un certain manque de capacité à co-construire et en tout cas à créer un esprit un peu plus fédérateur et une envie de travailler pour Strasbourg avec tout le monde.
Depuis que la municipalité est arrivée aux manettes, je vais donner un avis personnel. Je sais qu'il est partagé par beaucoup de monde, mais il n'engage que moi pour ne mettre personne mal à l'aise. Mais on ressent quand même beaucoup de vexation dans la communauté juive. Je ne parle pas de la communauté juive, je parle en tant que juif moi-même. Je sens beaucoup de vexation depuis que les Verts sont arrivés au pouvoir. Il y a eu de différents épisodes où nous étions vraiment, vraiment mal à l'aise. Et la question, par exemple, le dernier épisode, c'est que l'adjoint à la Méno, l'adjoint maire à la Méno, est venu à la synagogue pour Hanouka pour allumer une bougie. Et j'ai trouvé cette démarche un peu particulière, vu les engagements de cet adjoint, qui sont des engagements assez réputés comme étant pro-palestiniens, de frères musulmans. Quel est, d'après toi, le rapport qu'a la mairie de Strasbourg avec la communauté juive de Strasbourg? Est-ce que c'est un rapport sain ou critiquable?
Je ne sais pas quelles sont les pensées ou les visions de la mère et de son équipe sur la communauté juive, et je dois dire que je préfère pas commenter cela parce que je les connais pas et que ça ne me semble pas être judicieux de potentiellement créer des crispations, d'autant plus sur ces sujets qui me sont personnellement également assez chers. Par contre, ce que je peux dire sur l'intervention de M. Abdelkarim Ramdam à la synagogue, je pense que tu parles de celle de la Méno,
oui.
Pour le rallumage de la bougie de Hanouka, j'étais également présente. Je pense que là, ce qu'il faut retenir en tout cas de ce passage-là, de cet événement-là, c'était la volonté du rabbin de la Méno et de manière plus générale des acteurs de la Méno de vouloir relancer aussi et de développer encore plus qu'ils ne le font déjà, ce qui est fantastique, les relations interreligieuses et la vie interculturelle dans le quartier, qui est pour moi quelque chose de vraiment important et fondamental, qui plus est dans notre ville de Strasbourg, qui plus est dans les différents quartiers, pour qu'on arrive enfin... Qu'on ne soit pas d'accord sur le conflit israélo-palestinien, qu'on ne soit pas d'accord sur toutes ces choses-là, c'est très bien, mais au moins de pouvoir en parler calmement et de pouvoir vivre ces moments comme le rallumage de la bougie de Hanouka, de pouvoir le vivre de façon pacifiée, en concorde, ensemble, et pouvoir en parler posément. Et ça, c'est des choses, et ce sont des initiatives que je trouve très positives et très importantes pour notre ville.
D'accord, merci. On va parler un petit peu de ton engagement au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tu es assistante parlementaire.
Oui.
Comment tu trouves la machine parlementaire parisienne de construction de la loi? Est-ce que tu as l'impression que c'est un gros machin qui perd énormément de temps, qui se suffit à elle-même, ou y a-t-il vraiment une évolution dans l'efficacité, dans la rationalisation, dans la suppression de lois qui ne servent à rien, parce que c'est des choses que tout le monde sait sur le terrain. Quel est ton avis de l'intérieur? C'est ça qui m'intéresse, en fait.
Alors, mon avis de l'intérieur. Moi, je joue un rôle qui est un rôle de salarié dans une équipe pour un député. Hein. Je ne vote pas de loi. C'est très, très impressionnant d'arriver à l'Assemblée... que ce soit le cadre, le nombre de personnes qui y travaillent, la façon dont c'est tout en ébullition tout le temps, ça c'est vraiment c'est une dynamique très impressionnante. Qu'il y ait des lois qui servent à rien, ça c'est certain. Il y a certaines lois qui n'avaient pas de sens. Cette mandature a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour faciliter, supprimer, simplifier les lois. Moi, ce que je peux retenir, on arrive à la fin du mandat.
Oui.
Et donc, on est en train de vivre les dernières niches parlementaires. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une niche parlementaire, mais en gros, chaque groupe, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, à condition qu'il soit un groupe minoritaire, donc plus petit que le groupe de la majorité, peut avoir une journée qui lui est dédiée, dans laquelle il fait ses propres propositions de loi.
Ah oui, oui.
Voilà. Ce sont des journées importantes. Vous savez, pour la loi, il y a deux possibilités. Hein. Soit c'est un projet de loi qui vient du gouvernement et qui est amendé par les parlementaires. Oui. Soit ce sont des propositions de loi, donc qui viennent des parlementaires et qui sont vraiment des lois portées par les députés ou par les sénateurs. Les niches parlementaires, c'est les moments où, avant cette majorité, les groupes d'opposition proposaient des textes qui étaient systématiquement rejetés.
Ah oui. Je vois.
Et aujourd'hui, et avec cette majorité, il y a eu une réforme du règlement. Et aujourd'hui, toutes les propositions de loi, même qu'elles viennent de l'opposition, sont étudiées, sont débattues et sont pour certaines votées. C'est d'ailleurs la dernière niche, c'était celle des socialistes. Et ils avaient proposé une loi qui a été votée pour la dénonciation des crimes contre les Ouïghours, qui a donc été votée. Oui, c'est des choses qui sont... je trouve que ce sont des lois, des décisions et des travaux parlementaires qui sont intéressantes et enrichissantes pour notre pays, pour notre société et du coup pour la place de la France dans ces débats.
D'accord. Alors malheureusement, le temps passe trop vite. Mmh. Je voudrais qu'on parle de la condition féminine et de l'Europe. La semaine dernière était une semaine très importante à Strasbourg avec la venue d'Emmanuel Macron qui a inauguré, lancé la présidence française de l'Union européenne. Et puis, triste hasard du calendrier, le président du Parlement est décédé. Et il y a eu, l'avant-veille de la présence de Macron, l'élection de Roberta Metsola comme présidente du Parlement européen. Et là, j'avoue avoir été assez meurtri de voir qu'une femme qui milite contre l'IVG, dans un pays qui est le seul pays d'Europe où l'IVG est totalement interdit, une femme peut être violée, peut avoir par son père dans des conditions abominables, elle ne pourra pas avorter à Malte. Et une femme qui lutte contre l'IVG, alors qu'elle succède à Simone Veil, qui était évidemment celle qui a tant fait pour la lutte pour la condition féminine, qu'elle soit élue présidente, ça m'a vraiment heurté. Et là, je voudrais avoir ton avis de femme, ton avis de femme politique de personnes engagées dans les causes européennes. Qu'en penses-tu ?
C'est vrai que ça a fait un choc. Après, c'est le groupe PPE, donc c'est le groupe majoritaire au Parlement européen. Ils ont proposé cette candidate, elle a été élue. Moi, j'ai été fortement rassurée que le président Emmanuel Macron, lors de son discours dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, demande à ce que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux, puisque ça rappelle quand même à quel point on doit rester mobilisé pour défendre le droit à l'IVG et permettre à celles qui le souhaitent de pouvoir avoir accès à l'IVG. C'est pour moi un droit fondamental.
Évidemment.
Et plus on pourra le rappeler, plus on pourra le défendre, mieux on se portera, toutes et tous. Maintenant, c'est son élection est évidemment frustrante et évidemment compliquée. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à attendre de voir ce qu'elle va réellement dire sur l'IVG. Maintenant, elle est présidente du Parlement européen. Elle doit aussi faire en sorte que l'ensemble des avis et l'ensemble des opinions soient écoutés, défendus, et que l'ensemble des droits le soient également. Et je ne doute pas que cela pourra recréer de nouveaux débats si elle décidait de
Moi, j'ai une suggestion à faire pour, avec beaucoup de prétention pour modifier la charte européenne. C'est d'écrire, en effet, évidemment, l'IVG l'inscrire et de rajouter une clause juste à côté qui est la suppression de la clause de conscience pour les médecins.
Oui, alors ça c'est national hein, pour le coup, mais
pardon,
ça relève du droit national. Hein,
mais... Oui, mais c'est le cas aussi au Portugal, c'est le cas en Irlande, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Le pire pays, il me semble que c'est le Portugal, où la clause de conscience est quasiment généralisée auprès de tous les médecins.
Alors en France, avec la dernière loi, la clause de conscience est reportée. Elle ne peut pas être usée du médecin si le délai est trop court. Vous savez, en fait, si une femme décide de procéder à un IVG et que le délai est trop court, la clause de conscience du médecin ne peut pas s'imposer si ce délai prendrait le risque de la faire dépasser le temps.
Mais moi, je pense que un vrai combat féministe serait de supprimer cette clause de conscience dans le cadre de l'application de l'IVG. C'est-à-dire, quel qu'en soit le nombre de semaines ou quel qu'en soit, etc. On est revenu à peu près. Alors, enfin, dans certains pays, on est revenu 40 ans en arrière. Hein,
plus que la clause de conscience, moi, ce qui me rend malade, c'est l'idée qu'on impose une semaine de réflexion à la femme qui décide de faire un IVG, comme si elle n'était pas capable de elle-même se poser la question toute seule de savoir si elle voulait le faire ou non. Et c'est plutôt cette infantilisation-là de la femme qui me rend dingue que.
Je pense qu'il y a un vrai chantier global qui n'est pas mené aujourd'hui. Il n'est pas mené.
C'est un sujet qui reste encore parfois tabou, mais
voilà. Et juste pour terminer sur l'Europe, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. Enfin, extraordinaire, c'est pas le mot. C'est que Malte est un pays qui est en avance sur les questions LGBT et le plus rétrograde d'Europe sur la question de l'IVG. Et j'aimerais bien savoir comment peut-on être, comment peut-on allier les deux. C'est quelque chose qui est totalement, qui dépasse totalement l'entendement, quoi. J'ai du mal à comprendre comment on peut être si en avance sur un thème et si en retard sur l'autre, quoi. Ça donne bien, d'ailleurs, ça donne bien l'étendue du problème aujourd'hui de la condition féminine. C'est que je pense que c'est une question qui n'est pas suffisamment débattue et défendue, encore moins, je pense.
Non, je suis d'accord. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre les droits LGBT et le droit
à l'AF. Mon but n'était pas de
mettre l'un
par rapport à l'autre.
Bien sûr. Mais ça démontre en tout cas que ce sont des sujets sur lesquels il faut continuer à en parler, il faut continuer à se battre, il faut continuer à se mobiliser. Et peut-être aussi que, indépendant, peut-être malgré elle, de la présidence... De la nouvelle présidente du Parlement européen, c'est de remettre aussi ce débat et ces valeurs au cœur des débats dans la société.
Totalement.
Et j'espère que ça nous permettra d'avancer sur ces thèmes-là.
Et au Conseil municipal aussi, et à l'Assemblée nationale aussi. Je pense que ce sont des thèmes qui sont... c'est un thème qui est, à mon avis, cardinal, je crois, aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton engagement européen au niveau du mouvement
européen.
Tu peux m'en dire quelques mots ?
Rapidement, le mouvement européen, c'est une association qui est transpartisane, qui milite pour une citoyenneté européenne et pour développer un peu l'idée de l'Europe fédérale. Et on a une jolie équipe en Alsace qui organise plusieurs événements, dont deux importants à venir. Si voilà. Je peux rapidement faire ma page
non,
de pub.
Non, mais alors, tu prends ton temps... tu prends ton temps pour les dire, c'est important. L'actu est importante.
Le premier, c'est la convention citoyenne locale. On va lancer ça en mars. Le principe, c'est qu'on aura une centaine de Strasbourgeois ou de résidents de l'Eurométropole qui vont participer à une conférence sur l'avenir de l'Europe dans l'idée de défendre leur avis, leur opinion sur ce que doit devenir l'Union européenne. Évidemment, c'est un peu difficile. Ils seront tirés au sort, donc c'est un panel
D'accord.
représentatif de notre société. Mais c'est un peu difficile de donner son avis de but en blanc comme ça. Et donc, avec une agence de la participation citoyenne qui s'appelle Planète Citoyenne, on va les former un peu avant, leur donner tous les éléments pour
D'accord.
qu'ils puissent se forger vraiment leur opinion.
D'accord.
Ça, c'est le premier. Et le, second,
et le second,
c'est le sommet de la Société Civile Européenne. Je vais y arriver, pardon. Et là, pour le coup, c'est d'inviter à Strasbourg. Ce sera le 7 mai. Invité à Strasbourg, les représentants d'associations ONG, syndicats, en gros toute la représentation citoyenne et civile,
D'accord.
à venir marcher à Strasbourg pour la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe et pour matérialiser, illustrer clairement ce qu'est, quelles sont les envies et la mobilisation citoyenne pour l'Europe.
Très bien. On peut retrouver cette actu sur un site ou...
Surtout sur nos pages Facebook du mouvement européen Alsace.
D'accord.
On a un site, on recommuniquera encore beaucoup dessus et une newsletter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Écoute, Rebecca, grand, grand merci.
Merci à
on
toi.
On a un petit peu dépassé et c'est pas grave. je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps puisque j'avais d'autres questions à te poser. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission.
Volontiers.
Voilà, merci en tout cas Rebecca d'être venue.
Merci beaucoup.
Merci Sacha pour ta première émission.
Merci
Sacha. À bientôt. À la semaine prochaine.